Le thème de la soirée, c'est la rentrée, comment fixer ses priorités. Comment est venue un peu l'idée de fixer ce thème-là et d'en parler? C'est que vous, comme jeune professionnel parisien, là, vous êtes quand même assez sollicité. Et c'est vrai que la rentrée, c'est aussi un moment où on essaye de prendre un certain nombre de résolutions, même si on les tient pas toujours, mais d'essayer un peu de... Parce qu'on ne le fait pas assez, parce que, en fait, si on ne fixe pas les priorités, ce va être les autres qui vont les fixer pour nous. Et c'est, d'une certaine manière, vivre par procuration. Et ça, ce n'est pas juste. Hein, si le Seigneur nous a donné une intelligence et une volonté, c'est bien pour nous en servir. Et donc, du coup, fixer ses priorités, c'est aussi, dans le tourbillon de cette vie parisienne, fuir un certain activisme. Et se poser la question, est-ce que cet activiste, parce que tous les soirs vous pouvez être occupé, tous les soirs vous pouvez être, il y a des conférences, des groupes de prière, sans compter les expositions, sans compter les dîners entre amis, sans compter les, etc. Et on voit qu'au fond on peut passer à côté de l'essentiel, que ce soit au plan de la relation, au plan familial, au plan spirituel, on peut passer à côté de l'essentiel parce que justement on est dans une forme de tourbillon. Et la vie parisienne s'y prête, parce qu'il y a beaucoup de choses, et beaucoup de choses très intéressantes à faire. Et donc, du coup, on se dit, mais au fond, voilà, sachant que, bien souvent, vous aurez choisir entre le bien et le bien. C'est entre des choses à la fois qui sont intéressantes, comme ça peut être une visite d'une exposition, comme ça peut être un repas entre amis, comme ça peut être une conférence, un groupe de prière, que sais-je, vous aurez à choisir entre le bien et le bien. Hein, tout ça, c'est des très excellentes choses. Donc, de se dire, au fond, où est-ce que je veux aller cette année, et la rentrée, c'est propice pour ça. Qu'est-ce qui me paraît important pour moi et qui me marque aussi un axe de conduite, etc. Hein, et puis, c'est aussi lutter, parce qu'on sent bien qu'il peut y avoir chez les uns et les autres un peu la tentation de la peur de l'agenda vide. Voilà, il faut que je fasse des choses, sinon je vais louper, je vais passer à côté de quelque chose. J'ai peur de l'agenda vide. Et du coup, c'est bien souvent par angoisse que l'on se surcharge en termes de sortie, en termes d'activité, pour justement pas paraître par rapport aux autres inactifs. Et donc, du coup, on veut vraiment montrer qu'on est à la page. Oui, on a vu la dernière expo. Oui, on a vu ceci. Oui, on a vu cela. Ça, en forme d'introduction, ça, c'est l'introduction. Je me suis dit, ça peut être intéressant de parler d'un thème comme ça. Comment fixer ses priorités pour l'année? Mais avant de fixer les priorités, c'est la première partie. C'est relecture de l'année passée. Quand je dis l'année passée, j'entends de septembre 2013 jusqu'à septembre de cette année. Relecture. Qu'est-ce qu'on appelle la relecture? La relecture, c'est un mot qui est particulièrement employé chez les jésuites, hein, dans la spiritualité ignatienne. Peut-être vous avez entendu parler, si vous avez été fait votre prépa à Ginette, ou vous avez été dans une institution jésuite ou de religieuse qui était de tradition ignatienne. Relire, c'est-à-dire que on relit sa vie. Alors, on peut faire une relecture quotidienne, on peut faire une relecture mensuelle, on peut faire une relecture annuelle, le rythme que... Mais relire, c'est-à-dire sous le regard aussi du Seigneur, mais déjà de voir un peu qu'est-ce que j'ai vécu. Pourquoi c'est important la relecture? Parce que nous avons tendance à enchaîner les choses sans en tirer les conséquences. C'est-à-dire, nous avons tendance de vivre les choses, on vit des belles choses, des choses intéressantes ou des choses difficiles, mais on ne prend jamais ce recul nécessaire que nous donne la relecture et qui nous permet de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a construit, qu'est-ce que je ne voudrais pas revivre. Et dans le bureau de Spi & Spi, puisque comme association Spi & Spi a aussi un bureau, eh bien, chaque année, je propose aux membres du bureau un temps de relecture par rapport à leur engagement dans l'association. Et je propose par rapport à quatre pistes que je vous livre maintenant. Premièrement, qu'est-ce qui m'a dynamisé dans cette année et que j'aimerais vivre et revivre? Voilà, de se dire, poser la question... Qu'est-ce qui m'a dynamisé? Qu'est-ce qui a été source de joie, d'espérance? Qu'est-ce qui a été source de croissance dans ma vie? Qu'est-ce qui m'a aidé à vivre ma vie chrétienne et humaine, ma vie de foi? Qu'est-ce qui m'a donné le goût d'avancer? et que je voudrais continuer pour cette année. Donc première chose, partir aussi de ce qui m'a construit les sources de bonheur. Deuxième point, qu'est-ce qui m'a dévitalisé? Qu'est-ce qui a été au contraire source, un frein, un obstacle qui a été au fond une source de difficulté, d'angoisse que j'ai vécu cette année et que je ne voudrais pas revivre l'année prochaine. Donc qu'est-ce qui m'a dévitalisé? Qu'est-ce qui m'a tiré vers le bas? Troisième point, qu'est-ce qu'il me semble important de clarifier? De clarifier, c'est-à-dire qui me laisse interrogatif. Ça peut être dans les relations, relations familiales, relations amoureuses, relations de travail, amicales. Ça peut être. Il y a des choses qui ne me semblent pas claires et qu'il me semble important de clarifier parce que c'est flou. C'est quelque chose. C'est des questions que je porte, qui reviennent souvent dans ma pensée et qui, quelque part, ne me laissent pas tranquille. Ils sont peut-être source d'anxiété, sont source de culpabilité ou source de... Voilà. Donc, c'est troisième point, troisième clé pour faire sa relecture. Et quatrième clé, en se projetant dans l'avenir, qu'est-ce qui me dynamiserait? Donc, le premier, c'est qu'on a vu ce qui, dans le passé, a été source de vie. Qu'est-ce qui m'a dévitalisé? Qu'est-ce qui a été... qu'est-ce qui est important de clarifier parce que c'est un peu flou, hein, et qu'est-ce que j'aimerais vivre que je n'ai pas vécu, hein, qu'est-ce que je ressens comme peut-être un manque ou un appel que je vois dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre et qui me donnerait davantage de bonheur dans ma vie et de bonheur autour de moi. Et dans ce sens-là, comment est-ce que je vois aussi mes engagements, voilà. Donc, premier temps, pour fixer, de façon générale, quand vous avez un choix à faire, quel qu'il soit, professionnel, amical, amoureux, des choix à faire, premièrement, temps de relecture. Il faut que ce soit, hop, une manière habituelle, vous voyez, et ça, je trouve que les jésuites, de ce point de vue-là, c'est très humain, j'allais dire, c'est à base, on dirait, oui, bon, ben, c'est les jésuites, mais il se trouve que, justement, Ignace de Loyola, le fondateur des jésuites, justement, vous voyez, dans la relecture, dans un regard de foi, parce qu'on le veut voir dans une dimension humaine, mais dans un regard de foi, où au fond, où est-ce que le Seigneur a agi dans cette vie dans cette année qui a été passée? Où est-ce qu'il a agi? Où est-ce que je vois aussi ça, quelque part, des appels qui me sont lancés? Mais si je ne prends pas ce temps à la fois de silence, alors cette relecture, elle peut se faire avec quelqu'un qui a un peu l'habitude de ça, que vous connaissez, soit un religieux, un prêtre, quelqu'un dont vous estimez le discernement, vous pensez que voilà, qu'il y a une, ça peut être quelqu'un que dont vous estimez une certaine sagesse et clairvoyance, et avec qui vous faites ça, du coup vous lui apportez, vous faites la relecture. Du coup c'est intéressant de faire ça, de pas être, bon, on peut faire déjà se faire ça seul, c'est bien, mais c'est bien aussi de se faire accompagner pour ce temps de... Parce que ça apporte un regard extérieur, parce que précisément, nous n'avons pas toujours la lumière pour nous-mêmes. Hein, je me souviens, peut-être vous avez, ceux qui connaissent plus la communauté, étaient au courant qu'on a un des pères, notre doyen, là, qui est retourné vers le Seigneur la semaine dernière, qui était mon maître des novices, et qui a été le père spirituel, c'est-à-dire qui a accompagné spirituellement durant toute sa vie, il est mort à 90 ans, toute sa vie des dizaines et des dizaines de personnes, mais il disait, pour moi-même, je n'ai pas la lumière. Pour moi-même, je n'ai pas la lumière. Il était une lumière très claire, et ça, on a fait une veillée pour faire mémoire de lui, de toute la fécondité de son ministère de prêtre. Il a été une lumière pour beaucoup, mais il dit, mais pour moi, je n'ai pas la lumière, j'ai besoin d'être aidé. Donc je trouve ça intéressant de se dire que ce temps de relecture, se poser la question avec qui je pourrais le faire. C'est-à-dire, je le fais seul, je prends un temps, voilà, la grille que je vous ai donnée, hop, je prends un temps, en silence. Il ne faut pas faire ça dans le métro, c'est vraiment en silence. Et puis ensuite, je l'apporte à quelqu'un avec qui je peux, de dire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez, est-ce que j'ai... Pour justement, est-ce que... ma manière de discerner est correcte. Est-ce que ça vous paraît correct comme manière? Parce que qui dit fixer les priorités dit discernement, forcément. Ça demande un discernement. Un travail de l'intelligence et du cœur. Mais si je ne prends pas ce temps de relecture sur ce que j'ai vécu, évidemment, ça ne peut pas... disons, on peut prendre des décisions, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et surtout de ne pas enchaîner les choses sans voir comment ça nous a construit ou comment, au contraire, ça nous a éloigné de notre objectif. Hein, c'est ne pas enchaîner les choses. Je trouve qu'on est beaucoup dans l'enchaînement de choses, parfois très sympathiques, etc. Bon, les vacances, par exemple, vous avez vécu, certains sont allés sur des bateaux, j'ai l'impression. Bon, voilà, ils sont allés sur des bateaux. Bon, ben, qu'est-ce qu'on... Voilà, on fait une croisière, hop, qu'est-ce qu'on a vécu pendant cette croisière? Relecture de la croisière, voilà, Bon, oui, un peu que ça devienne une deuxième nature, vous voyez, c'est... Ou un temps famille, relecture du temps famille. Un temps, je sais pas quoi, vous avez été faire crapahuter, je sais pas quoi, dans le désert, faire, voilà, un trek ou quoi. Bon, ben, relecture du trek. Oui, c'est tout est objet de relecture quelque part, et je trouve que ça donne une vraie intelligence, et ça fait qu'on se construit. Vous voyez, humainement, comme homme, comme femme, vous vous construisez spirituellement. Vous voyez, c'est petit à petit comme une forme de sédimentation. Voilà, vous dites tiens, ça je l'ai vécu, je vois ce que j'ai vécu. Ça vous aidera aussi à poser des choix pour l'avenir. Et ne pas être dans la panique ou l'angoisse ou le fait de manquer quelque chose parce que tout le monde y va, il faut que j'y sois, donc ça c'est vivre par procuration. Voilà, c'est peut-être tout le monde y va, très bien, mais peut-être c'est peut-être pas là où je suis appelé à aller. Deuxième, ça c'était introduction. Deuxième, j'ai pas eu le temps de faire la petite feuille que je fais habitude là, pardon, mais bon. Deuxième, première partie de la relecture. Deuxième chose, la manière de prendre les décisions. Les étapes de la prise de décision. Deuxième partie. Les étapes de la prise de décision. Alors peut-être certains, ça va être une redite parce qu'ils m'ont écouté s'ils sont venus à la retraite discernement, etc., à l'abbaye, mais il y a trois étapes de décision. Quand j'entends les décisions, des décisions importantes, des décisions professionnelles, des décisions amoureuses, des décisions par rapport à... Bon, entre s'il faut choisir entre un pain au chocolat ou un pain au raisin, on n'a pas besoin forcément d'avoir une relecture et la dernière fois que j'ai mangé un pain au raisin, comment je l'ai vécu, etc. Bon, du coup, bon, voilà, ce serait un peu le. Mais non, voilà, on parle de. Il y a trois grands choix à faire dans la vie. Il n'y en a pas 40, il y en a trois. Il y a premièrement le choix professionnel qui, mine de rien, même si on peut changer de profession, mais quand même guide beaucoup et occupe beaucoup de notre temps, le choix professionnel de la profession. Deuxièmement, le choix de l'état de vie, ce qu'on appelle l'état de vie. Hein, dans l'Église, on considère qu'il y a deux états de vie, il y a l'état marié et l'état de consacré, le choix de l'état de vie, ma vocation, à quoi le Seigneur m'appelle. Et troisièmement, le choix de Dieu dans sa vie. Hein, là où, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle, ni d'où vous venez, etc. Bon, peut-être, et ça, SPSP volontairement se veut tout à fait ouvert de ce point de vue-là, mais voilà. C'est quand même les trois choix à faire dans sa vie, où est-ce que... voilà. Alors, quelles sont les étapes de la prise de décision, de toute prise de décision un peu conséquente? Premièrement, la première étape, c'est écrire, moi sur blanc, la décision à prendre. C'est-à-dire, le fait d'écrire la décision à prendre, et du coup, quelque part, que cette manière de d'écrire... puisse être une question fermée, c'est-à-dire que, vous savez que la différence entre une question ouverte et une question fermée, la question fermée, on répond par oui ou par non. Hein, c'est-à-dire, donc du coup, le fait de prendre une décision, d'écrire la décision à prendre, est-ce que sous forme interrogative, du coup, aide aussi au discernement. Parce que, bien souvent, parce que j'ai mal posé la question au départ, je n'arrive pas à prendre la décision, parce que le problème a été mal posé au départ. Deuxièmement, le conseil. Le conseil, c'est-à-dire demander conseil. Là aussi, je trouve que nous restons souvent trop seuls par rapport aux décisions à prendre. Décisions amoureuses, décisions professionnelles, décisions familiales, des décisions spirituelles, j'en sais rien. Bon, on reste trop seuls. Et dans l'Église, on a quand même cette grâce d'avoir des personnes auprès desquelles on peut aller, qu'on peut consulter, qui nous aident aussi quelque part ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, hein, qui est beaucoup plus fréquent, j'allais dire, chez les orthodoxes que chez les catholiques, hein, qui nous aident justement d'avoir le conseiller, et c'est pas lui qui prend la décision. Hein, il est juste là comme un miroir. Ensuite, vous pouvez faire autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une étape importante, la dimension de conseil. Ensuite, la troisième partie de la prise de décision, c'est ce qu'on appelle la délibération. Qu'est-ce que ça veut dire délibérer ? Délibérer, c'est se dire à soi-même pourquoi est-ce qu'on prend la décision. Par exemple, vous voulez demander une augmentation à votre patron. Bon, alors tout ça, voilà. Du coup, vous pouvez demander conseil à un collègue, pour le coup, avec les gens qui sont un peu du métier, ça te paraît juste, ça te paraît pas juste, etc. Bon. Et ensuite, il faut délibérer, c'est-à-dire se dire à soi, se faire, c'est ce discours intérieur qu'on se fait à soi-même, qu'on va redire, hein, on voit parfois dans des films où les gens se parlent dans la glace, alors je lui dis ça, il me répond ça, etc., etc. Donc, c'est aussi pour les déclarations d'amour, ça marche aussi. Donc, du coup, je lui dis, au fond, voilà, pourquoi est-ce que je fais un discours intérieur, pourquoi est-ce que j'ai choisi telle option par rapport à telle autre? Pourquoi j'ai choisi telle branche de la thérapie native plutôt que telle autre? D'où l'importance d'avoir bien posé le problème à la base. Donc, cette délibération... Parce que pourquoi ça? Bien souvent, dans nos vies, on commence quelque chose et on arrête. Et pourquoi est-ce qu'on arrête? On est perdu. Parce qu'on n'a pas eu cette étape de délibération. On ne s'est pas dit à soi-même pourquoi est-ce qu'on prenait telle la décision. On n'a pas eu cette étape intérieure du pourquoi de la chose. Et donc, du coup, on s'est lancé parfois tête baissée, et c'est propre de la jeunesse qui, voilà, je vois le problème, sans demander conseil, sans délibérer, je passe à l'acte. Et du coup, j'arrive au milieu du guet, mais pourquoi je suis là? Du coup, forcément, il y a des gens, soit ils sont pas d'accord, soit je rencontre des difficultés, soit on me critique, je sais pas quoi, et j'arrête. Et comme je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de faire ça, je ne me le suis pas dit de façon très claire et très nette, eh bien j'arrête. Vous voyez, donc la délibération, c'est se dire à soi-même pourquoi est-ce que j'ai choisi cette carrière, pourquoi est-ce que j'ai choisi de commencer ou d'arrêter une relation amoureuse, pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre les moyens de grandir dans la vie de foi ou pas, parce que pourquoi est-ce que c'est ces aspects-là qui, à mon avis, au plan relationnel, pourquoi il me semble important de développer. Vous avez compris un peu l'idée de ça. Et puis, la quatrième étape de la prise de décision, c'est le passage à l'acte. Il y a des personnes, ils posent le problème, ils demandent conseil, ils délibèrent, mais ils ne passent jamais à l'acte. Or, le discernement vise le passage à l'acte. Ça vise le passage à l'acte. C'est-à-dire, c'est fait pour agir. Quand on discerne, on discerne pour agir, on discerne pas simplement, parce qu'il y a des personnes, on voit bien, ensuite il faut une reboucle, j'ai peut-être pas assez demandé conseil, je vais voir un autre quelqu'un d'autre, puis je vais voir quelqu'un d'autre, puis là fortement les gens que vous allez voir avec ce qu'ils sont, disent ce qu'ils ont, vous leur apportez une question, et puis voilà, ils réagissent, et puis un deuxième réagira autrement, et un troisième pareil. Ou des personnes qui disent il faut que j'y pense, ils sont dans la délibération, hein, c'est ce qu'on appelle les velléitaires ou ceux qui procrastinent, hein, les procrastinateurs, c'est un mot très très à la mode, c'est-à-dire ceux qui remettent au lendemain ce qu'ils pourraient faire le jour même, c'est ça. Du coup, c'est le passage à l'acte, et le passage à l'acte conforme à la foi, surtout conforme à la délibération. Parce que je me suis donné les raisons d'agir, je trace un chemin. Vous voyez, je construis une vie. J'ai demandé conseil, je vérifie, et puis bon, donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les étapes de la prise de décision. Troisième partie, ça va, ça va pas trop vite, c'est bon. Troisième partie, c'est quels sont les choix qui se présentent à moi aujourd'hui. Un peu revenir sur la première étape de la prise de décision. Quels sont, au fond, poser le problème, quels sont les choix qui se présentent à moi aujourd'hui, hein, au niveau personnel. Il y a des choses où j'ai une marge de manœuvre, il y a des choses qui, quelque part, s'imposent à moi. Des questions, j'appartiens à telle famille, j'ai telle santé, il se trouve que je suis dans tel travail, et que, bon, c'est ce qu'on appelle les circonstances et les nécessités. Hein, j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal, hein, Blaise Pascal, que vous avez certainement étudié, plus jeune, qui dit « les circonstances et les nécessités », c'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas forcément choisi, « les circonstances et les nécessités, voilà mes maîtres spirituels ». C'est-à-dire, voilà, ma famille, elle est comme ça. Je suis dans un état peut-être de célibat, j'aimerais tisser une relation amoureuse, mais bon, ben, c'est vai qu'il y a, comme je le disais dans un autre, il y a un peu un déficit de mecs en général, donc du coup, sur lesquels s'appuyer, etc., bon, ben, du coup, où ils sont vite pris, etc., bon, mais donc du coup, voilà, je vis ça, je sais pas forcément, j'aimerais, voilà, mais bon, aujourd'hui, là, je discutais avec une jeune femme là ce week-end, 39 ans, ben, elle me dit, ben voilà, je ne sais pas quoi faire, moi je veux fonder une famille, et puis j'ai 39 ans, vous comprenez, ben oui, je comprends, oui, donc, circonstances et nécessités. En même temps, on ne va pas prendre le premier venu dans la rue, hop, on y va, non, ça ne veut rien dire. Donc, du coup, les circonstances, et, voilà, qu'est-ce que je vois dans ces circonstances? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu n'as pas choisi? En quoi ça peut être aussi un lieu de fécondité pour ta vie? En quoi ça, tu peux porter du fruit avec ça? Quelque part, accueillir aussi, pour ceux d'entre vous qui ont la foi, accueillir de la main du Seigneur ses circonstances et ses nécessités. Non pas être dans la... la perpétuelle, comment on appelle ça, regret ou râlerie ou ressasser, voilà, ressasser toujours, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, c'est injuste, c'est trop injuste, etc., comme Calimero. Bon, non, ben, voilà, ça fait pas avancer. Vous voyez, typiquement, ça fait pas. Qu'est-ce qu'avec cette circonstance et ses nécessités, en quoi je peux porter du fruit? On verra après, c'est une clé capitale pour les prises de décision. En quoi aussi le Seigneur m'attend là? En quoi ça? Je n'ai pas choisi. Je voudrais, pour moi, typiquement, fonder un foyer, ben, je ne trouve personne, ou ça n'a pas marché, j'ai eu des histoires, mais bon, douloureuses, et puis bon. Voilà, quand on a été échaudé, ben voilà, on s'y reprend, on regarde un peu à la deux, voire trois fois avant de recommencer. Bon, voilà, donc, au fond, derrière ça aussi, c'est rentrer dans une espérance. C'est rentrer dans... Il n'y a pas de vie sans vocation, il n'y a pas de vocation sans mission, il n'y a pas de mission sans fécondité. Si je suis sur terre, d'une manière ou d'une autre, c'est pour porter du fruit. C'est pas le fruit du hasard et de la nécessité, hein, comme disait Jacques Monod, hein, dans son livre. Le hasard, on n'est pas le fruit du hasard et de la nécessité, non. Nous sommes fruits d'une volonté, d'un amour, pour nous chrétiens en tout cas, c'est très clair, et on n'est pas les seuls à le penser, on le partage aussi avec tous ceux qui partagent la foi monothéiste. Ben voilà, on est le fruit d'un amour et d'une volonté d'amour sur nous. Si on est sur cette terre, donc voilà. Ne passons pas à côté d'une fécondité, ne passons pas à côté de notre vie. Ne passons pas à côté de notre existence, tout simplement parce qu'on est dans, on est en ressasse, parce que tout, on est dans le pain, toujours dans la râlerie, on est dans la... voilà. Donc, Où est-ce que j'ai, au fond, quels sont mes lieux de choix, je vous disais, hein. Donc, quelle est ma marge de manœuvre? Ça peut être dans ma vie professionnelle, ça peut être dans ma vie amicale, familiale, amoureuse, spirituelle. Je pense avec ça, on a fait à peu près le tour. Bon, de loisirs aussi, la vie de loisirs. Tout ça, ça demande aussi un discernement. Et donc, je vois un peu plusieurs aspects où vous pouvez avoir une marge de manœuvre. Plusieurs aspects. Premièrement, l'aspect professionnel. Est-ce que je subis ou est-ce que je choisis mon travail? Alors, est-ce que... on va refaire l'année dernière, il y a eu quelque chose sur le travail, mais en fait, il y a eu une assemblée générale de l'association et l'une d'entre vous a dit, mais non, mais c'était pas... En fait, il a donné plus un témoignage, mais on s'attendait à autre chose. Donc peut-être on retravaillerait, parce qu'une fois sur deux, c'est moi, une fois sur deux, c'est un intervenant extérieur. Donc peut-être on retravaillera ce sens du travail de façon plus approfondie. Mais je trouve que, là aussi, la dimension professionnelle, ne soyons pas des idéalistes. C'est vrai que vous avez des grands désirs, vous êtes donné beaucoup dans les études, maintenant, je pense que demander au travail ce qu'il peut vous donner. Hein, parfois, j'entends l'un ou l'autre, il me dit, mais non, je ne suis pas heureux dans mon travail. Beaucoup de jeunes professionnels, justement, qui ont une forme de désillusion, hein, après les études, etc., penser quelque chose, parce qu'ils disent, mais ça n'a pas de sens, je ne trouve pas du sens, ou alors je me lasse, etc. Et il faut faire attention, au fond, à cette tentation qui consiste à dire, l'herbe du voisin est toujours plus verte. C'est-à-dire, je vais voir ailleurs. Et donc, du coup, mais quand je suis ailleurs, je dis, maintenant, au fond, mon travail, c'était... Ben, voilà. Accueillons aussi le travail comme une réalité limitée, comme une réalité juste humaine. Et qui dit humaine, dit frappée par la limite, forcément, et par les défauts des uns et des autres, de vos collègues, de vos boss, de vos... des personnes dont vous avez la responsabilité si vous êtes en hiérarchie. Hein, donc, du coup, c'est... Et de se dire qu'au fond, à travers le travail que vous avez choisi, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Quand vient le moment un peu difficile dans nos vies, soit par là je parle du travail, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Est-ce que ça a été vraiment le fruit d'un choix? Ou est-ce que dans ma famille, de toute façon tout le monde faisait des grandes écoles, de toute façon on m'a dit ensuite c'est les cabinets de conseil, quelque part... Jamais je me suis posé la question de pourquoi je faisais ça. Donc arrive la difficulté, je ne me sens pas vraiment à ma place, mais comme je n'ai pas eu ce temps de délibération, je suis un peu perdu parce que c'est, oui, au fond, pourquoi être là, et pourquoi faire ci, et pourquoi pas autre chose, et du coup on rentre dans une forme de confusion parce qu'on n'a jamais pris le temps de se dire quels étaient nos talents et en quoi on pouvait les mettre au plan professionnel au service des autres. Et donc, du coup, arrive le moment un peu difficile, et qui arrive toujours dans la vie professionnelle, parce que, voilà, le patron, il est comme ça, il est mal luné, ou parce que, le travail, à un moment donné, on en fait le tour, forcément, tout travail, finalement, on en fait le tour, sauf de prêtre, on n'en fait pas le tour. Enfin, je dis ça, peut-être, c'était la page pub. Ça, c'est toujours nouveau. Mais bon, c'est pas le cas de tous c'est un travail un peu particulier. Mais de se dire, voilà, au fond, pourquoi j'ai choisi ce travail-là? Pourquoi? Est-ce qu'il me rend heureux? Et puis de se poser la question de travail, on peut en changer aussi. Mais on n'en change pas parce que, tout simplement, on n'y trouve pas du sens ou parce que... Pourquoi est-ce que je change? Faites bien travailler, vous avez une bonne intelligence, faites travailler votre intelligence. C'est aussi un don de Dieu, l'intelligence. C'est en cela que nous sommes à son image et ressemblance, parce qu'on est capable d'aimer et capable de comprendre. C'est ça, l'image et la ressemblance de Dieu. Capable d'aimer, on a une intelligence et un cœur. Voilà. Et donc, du coup, Donc, la question du travail, je trouve que, attention au changement pour le changement, attention à l'idéalisation, parce qu'on idéalise un peu toujours quand on est étudiant la vie professionnelle. Là aussi, en quoi, là où je suis, je peux porter du fruit et je peux faire avancer ce monde dans le sens de la justice et de la fraternité. En quoi je peux faire avancer les choses. Peut-être je pourrais pas, je veux dire, s'il y a des cultures d'entreprise qui vous détruisent, hein, où c'est le management à la pression, au stress, etc., etc., où c'est la compétition et les personnes, etc., bon, qui est une émulation, c'est normal, c'est ça qui fait avancer le public. Mais que dans la culture d'entreprise qui est, on fait venir, moi, je ne me rappelle plus, j'avais lu ça, il y a une grande messe de l'entreprise, etc., et on fait venir sur la scène et on annonce les résultats de chacun sur la scène, devant 500 collaborateurs. Oui, ça c'est juste pas possible. C'est bon. Alors voilà. Parce qu'on estime que ça contribuera à l'émulation, oui, ça peut aussi détruire quelqu'un. Hein. Donc du coup, voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est une entreprise qui me... Est-ce que c'est un travail qui me convient? Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Vers où aller, etc., etc. Vous donnez aussi la possibilité, peut-être, d'autres orientations, éventuellement. Deuxième aspect où vous avez une marge de manœuvre, c'est les relations. Et j'en distingue plusieurs. Premièrement, les relations amicales, l'amitié. Quelles sont les amitiés à développer, qui vous semblent à développer? Quelles sont les amitiés ou relations amicales ou qui vous semblent à arrêter, ou en tout cas, justement, c'est un peu flou, c'est pas à clarifier, parce que je sens que c'est pas tout à fait clair, parce que je sens toujours utilisé, parce que je sens que c'est toujours moi la bonne poire, parce que c'est fille et garçon, et je sens voilà qu'il y a un peu de dragouille là-dessous. Je sens que ça a clarifié en tout cas, et que moi-même peut-être je suis pas au clair, et donc voilà, ça a clarifié. Les amitiés, on n'est pas obligé de les garder toute sa vie. Il n'y a pas des amitiés de toute la vie. Je veux dire, les amitiés, par définition, ça change, ça évolue. Parce que les gens partent, parce que les gens... il y a des amitiés qu'on garde, il y en a d'autres que l'on laisse de côté. Donc, ça, je pense, de ce côté-là, il ne faut pas être... Maintenant, il faut faire attention de ne pas être injuste. Ça, j'y reviendrai de façon générale dans les relations. Ça veut dire quoi, injuste ? La définition de la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est ça la justice. Et on peut très bien être injuste en amitié, tout simplement en ne consacrant pas le temps nécessaire à l'amitié. Parce que l'amitié demande du temps. Ce qui veut dire qu'on n'a pas 450 amis, hein, sauf sur Facebook. Mais ça, c'est encore une autre réalité. Mais on peut être injuste en amitié. Parce que l'autre, ou alors, dès que je vais mal, alors là oui, je me rappelle de ma liste de contacts. Quelqu'un me disait, une telle que je connaissais, elle va très bien, on n'entend plus parler. Dès qu'elle a un coup de blues, etc., j'ai droit à un coup de fil. C'est pas tout à fait juste. Si j'ai décidé qu'on avait une amitié, qu'on cheminait ensemble, et que voilà, ça s'entretient dans les moments favorables comme les moments plus difficiles. Idem, les relations amoureuses, peut-être, l'été aidant. La puissance du soleil et de la chaleur a développé dans vos êtres tout entiers des énergies à nul autre pareil. Et donc, du coup, vous avez peut-être commencé une relation amoureuse depuis l'année dernière, depuis septembre dernier, ou vous en avez peut-être terminé une. Ça peut aussi arriver, c'est des choses qui arrivent. Donc, mais de se dire, je peux être aussi injuste là, dans le sens où... quelle est la vraie... Il y en a qui s'enferment à deux. Depuis que tu es avec un tel, on ne voit plus. Hein? Donc, on peut être injuste par le trop ou par le pas assez. Quelque part, trop de temps, un côté trop fusionnel, par exemple, dans la relation amoureuse, qui fait que je me coupe plus ou moins des autres, hein, fait que, du coup, les autres ont l'impression d'un certain pas assez, c'est peut-être juste. Relation familiale. Je reviens à la relation amoureuse. Si vous voyez que cette histoire-là est amenée à durer, et j'allais dire que nous, comme chrétiens, on estime que les relations amoureuses, c'est pas simplement pour ne pas être seul, c'est pas simplement pour avoir de la tendresse, des câlins, etc. C'est qu'il y a un avenir devant. C'est que c'est quelque part, on exclut, en tout cas, on n'exclut pas la possibilité d'avoir un destin commun. C'est pas juste pour le fun. Et donc, du coup, de se dire aussi, est-ce que dans cette relation amoureuse, où est-ce que j'en suis de ce discernement, les étapes du discernement, là, pour le coup, doivent se poser de façon très importante, mais ça devient quand même la priorité. Pas l'exclusivité, mais si je commence une relation amoureuse et qu'on estime, ben voilà, qu'on pense qu'on est, on a un destin commun, on va, en tout cas, on se pose la question sérieusement, on l'exclut pas en tout cas, ben ça devient la priorité. Je dis ça parce que le petit copain, la petite copine n'est pas une amitié parmi les autres, c'est quand même une amitié très particulière. Je vais comme ça discuter avec un couple et lui se plaignait que sa douce amie, au fond, il avait l'impression d'être un ami parmi les autres. Et que dès que... c'est marrant. Mais dès que elle rencontrait un garçon, etc., elle lui demandait, mais c'est quoi ton numéro de portable? Ensuite, elle prenait un pot avec lui, etc. Bon, alors elle disait, mais écoute, mais on est ensemble, on n'est pas ensemble. Voilà, ça devient une relation privilégiée. Donc je pense que c'est important de se dire qu'est-ce qu'on se met comme temps pour cheminer ensemble, et donc de façon privilégiée, approfondir. C'est quelque chose, justement, où on va donner du temps. On peut être injuste dans le trop, dans le sens où on est dans l'exclusivité, alors un peu, voilà, on est à fond dans la relation, on est bon, ça c'est un peu les débuts, on est tout émoustillé, mais on peut être aussi dans le pas assez, dans le sens où on est bien simplement avec l'autre, mais on ne donne pas assez de son temps et assez de son énergie. Idem pour les relations familiales. Idem pour les relations familiales. Je dis ça parce que, là encore, il peut y avoir le trop ou le pas assez, mais j'allais dire, soyez, je ne sais pas, vous en êtes de vos relations familiales, en tout cas, c'est peut-être une tentation, comme vous avez une autonomie financière, comme vous avez une autonomie de mouvement, vous êtes à Paris, peut-être votre famille n'habite pas Paris, et puis habite ailleurs, etc., etc., bon. Ben, du coup, voilà, vous dites, bon, vous laissez un peu les parents de côté, ou les grands-parents de côté, ou les frères et sœurs, etc., bon. Il faut faire, je veux dire, on peut être injuste avec ses parents, dans ce sens-là. On peut être injuste avec ses parents en ne donnant pas le temps qu'ils méritent. Et parce que, voilà, parce que soit ça me saoule, soit l'autre est compliqué, soit, bon, mais il y a des personnes malheureusement dont il faut s'éloigner parce que c'est des personnes qui nous détruisent, mais bon, grâce à Dieu, c'est pas le cas de toutes les familles, mais parfois il y a une forme d'égoïsme et du coup je vois pas que il y a une dimension aussi de justice et une dimension dans les choix à faire, dans les priorités à poser. Où est-ce que j'en suis du lien avec ma famille? Au moins clarifier ça. Peut-être qu'il y a des choses à clarifier, justement. Et puis, dernier point, la relation avec le Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche spirituelle, posez-vous la question, on peut être aussi injuste avec le Seigneur en lui donnant pas le temps qu'il mérite. Assez de temps, justement, pour me former dans ma vie spirituelle, me avancer, je trouve que ces rencontres que nous avons ont vraiment cet objectif de vous donner des clés aussi pour avancer dans votre vie et humaine et spirituelle. Ça va de pair, les deux, ça va de pair, c'est ensemble. Il ne faut jamais dissocier, c'est pas que spirituel et puis que, voilà, on est une unité. Donc du coup, de se dire, voilà, dans ma vie spirituelle, en quoi je la prends en main, cette vie spirituelle, en quoi, peut-être aussi il y a eu une... Là aussi, souvent, moi j'étais au milieu d'étudiants, alors quand on est étudiant, autant vous dire que la vie spirituelle est de loin pas une priorité, certainement pas. Quand on est jeune pro, quand on commence une vie professionnelle, quand il y a fortiori, on est en couple, etc., et donc plus ou moins se projette le mariage, voilà. Du coup, les questions de vie de foi, ça se pointe le bout de leur nez, et c'est bien de dire, voilà, où est-ce que j'en suis de cette relation-là? En quoi j'ai des choix à poser par rapport à ça? Qu'est-ce qui me permettra d'avancer? Donc, question concernant les relations. Un autre point, une autre partie, c'est la question de la fécondité et de la croissance. Je l'ai évoqué, la fécondité et la croissance. Quand on dit fécondité, quand on parle de fécondité, hein, je le dis aussi au couple, la seule fécondité dans un couple, ce n'est pas les enfants. C'est-à-dire, soyez féconds et multipliez-vous, ce n'est pas dans ce sens-là où je vous invite à propager l'espèce humaine, en tout cas pas tout de suite, hein, c'est fécondité dans le sens de porter du fruit. Dans le sens que ma vie, j'ai des talents, j'ai des grâces que j'ai reçues, j'ai des capacités, en quoi je peux les faire fructifier ? En quoi je peux les faire développer ? En quoi déjà j'ai pris conscience de mes talents ? C'est marrant, il y a certains qui sont incapables de dire leurs talents. Ah ben non, moi non. Alors, soit parce qu'ils pensent que c'est de l'orgueil, alors que c'est pas de l'orgueil. Les talents, on les reçoit. On a des talents d'écoute, on a des talents d'organisation, on a des talents de relation. Justement, il y a des gens qui ont une facilité de relation déconcertante, vont avec le premier venu dans la rue, lui parlent, etc. Bon, une facilité de. Il y a des talents de. Musique, de ce que vous avez pu avoir, on a des talents d'organisation, il y a des talents en nous. Repérons les talents qui sont en nous et voyons en quoi ces talents-là, au fond, je les mets en pratique. Hein, vous rappelez la parabole des talents de Jésus qui parle, les talents qui sont donnés. Le mot talent, en fait, c'est aussi un jeu de mots parce que c'est une. C'était une pièce de monnaie aussi, une valeur monétaire du temps de Jésus, hein, le talent. Et donc, du coup, en quoi ces talents-là, je les fais fructifier. Et puis, c'est intéressant, si vous vous rappelez, vous avez certainement en tête la parabole des talents, il donne à un premier 5 talents, et lui, il lui en redonne 10. À un deuxième, il lui en redonne 2, il lui en redonne 4. Et à celui à qui il a donné 1, eh bien, il lui redit, il dit « Voilà ton talent ». Le voilà. Ce que tu m'as donné, on est quitte maintenant. Et Jésus a une parole très forte, il dit, serviteur mauvais. Tu aurais pu le mettre à la banque et lui faire porter du fruit. Hein? Serviteur mauvais. Donc du coup, je trouve ça intéressant de se dire que les talents que l'on a, ils sont là aussi pour les faire fructifier. Pour être et le fait de poser des priorités dans sa vie, c'est repérer les talents. En quoi ça va être une source de fécond? La vraie question de nos vies, c'est la fécondité de nos vies. C'est ça la vraie question de nos vies. En quoi, au terme de ma vie, je peux dire que vraiment j'ai porté du fruit et que ce que j'avais reçu, eh bien je l'ai démultiplié. Pour l'autre, pour moi-même, pour grandir. Du coup, qu'est-ce que je prends aussi comme décision, comme priorité, et où est-ce que je vois mes lieux de fécondité ? C'est pas si facile à voir, mais bon, en même temps, parfois si, hein, je suis un peu de bon sens là. Où est-ce que je vois des lieux où je peux porter du fruit ? Où est-ce que je vois où mes talents, je peux les exercer ? Où est-ce que. Et c'est intéressant la réponse de celui à qui on n'avait donné qu'un seul talent. J'avais peur. J'ai eu peur et je l'ai enterré. Voilà ton bien, on est quitte. Mais avec le Seigneur, on n'est jamais quitte, ça tombe mal. Donc et la fin de la parabole, vous la connaissez, un serviteur mauvais, etc. Il lui prend le temps, il lui donne à celui qui en a 10. Voilà. Car celui qui a recevra davantage et celui qui n'a pas se fera enlever même ce qu'il a. Donc c'est... La fin de la parabole est un peu raide, mais quelque part, la vie, c'est comme ça. Hein. La vie, c'est comme ça. Il y en a qui vivent en termes de fécondité, mais quelque part, plus ils avancent, plus ils rayonnent, plus ils sont féconds, plus se dilatent, j'allais dire, ça, autour d'eux, plus le bien se fait. Et puis, il y en a qui sont dans un peu rétrécissement, dans le repli sur soi, dans la peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Hein, quand je médite sur cette parabole, je pense toujours au livre de la Genèse. Hein, vous rappelez, Adam, etc. Où es-tu? Après le péché originel, Adam, où es-tu? Hein, j'ai eu peur et je me suis caché. Qu'est-ce qui est le plus opposé à l'amour? C'est pas la haine, c'est la peur. Même si souvent la peur est source de haine. J'ai eu peur. Donc ça veut dire aussi, choisir la fécondité de nos vies, c'est choisir la confiance. Où est-ce qu'il y a des lieux où j'ai quelque part à lâcher prise, à m'en remettre, à avancer, à faire un pas. Relation professionnelle, relation amicale, amoureuse, spirituelle. Où je sens que je suis dans... Je dois faire un pas, je dois quelque part devenir un homme, une femme debout, quoi. C'est un esprit de liberté, dit saint Paul, qui vous anime. C'est pas un esprit d'esclave. On n'agit pas selon la peur, on agit selon l'amour. Hein, l'amour bannit la peur, dit saint Jean. Hein, vous vous rappelez la première lettre de saint Jean, l'amour bannit la peur. Et l'amour, c'est ça qui nous fait porter du fruit. Et là aussi, de se poser la question, en quoi j'ai des décisions à prendre par rapport à ça. Mais en même temps, discerner, parce que vous pouvez avoir beaucoup de demandes, parce que plus on rayonne, plus on a de demandes, forcément. Et donc, du coup, discerner où est-ce que vous êtes, parce que c'est entre le bien, pour pas tomber dans l'activisme dont j'ai parlé, voilà. C'est aussi apprendre à dire non. Poser les priorités, c'est apprendre à dire non. La force du oui, elle n'a d'égal que la force du non. Ton oui est fort parce qu'il y a eu un non qui a été fort à autre chose. Hein? Dans toute vocation, dans tout appel, vous voyez dans la Bible, par exemple, dans tout appel, hein, par exemple, Abraham, quitte ton pays et la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai. Voilà, quitte. Dans toute vocation, vous pouvez prendre tous les récits de vocation, il y a cet aspect de quitter. Il y a quelque part un lâcher prise. Si on est cramponné sur sa sécurité, on est plus loin, bon, voilà, mais il y a un pas dans la confiance. Et du coup, à quoi je dis non? À quoi je renonce? C'est de renoncer aux autres hommes et aux autres femmes, par exemple. C'est un peu l'idée générale. Mais voilà, c'est la force du oui et aussi la force du non. Mais voilà, c'est à quoi je renonce. Et de ne pas avoir peur, quelque part, parce que je n'ai pas vraiment renoncé à quelque chose, je n'ai pas dit, ben non, là je n'y verrai pas pour telle et telle raison. Il faut aussi les étapes de décision pour dire non. Hein, dont je vous ai parlé, le conseil, délibération, la prise, le passage à l'acte. Bon, dire non, c'est aussi important. Hein, c'est pas parce qu'on dit non qu'on n'est pas gentil. Parfois, pour plaire, on dit oui à tout. Mais du coup, on dit oui à personne. C'est pas ça, ceux qui aiment. C'est pas ça, c'est pas... La fécondité de nos vies, c'est pas dire oui à tout. Fécondité de nos vies, ça va être aussi accepter de dire non à des propositions qu'on me fait pour ceci, parce que je vois que ce n'est pas mon appel. Hein, vous connaissez peut-être quand le pape François a été élu, y a le conclave avec les cardinaux, etc. Et les cardinaux sont à la Maison Sainte-Marthe du Vatican, et maison d'accueil spirituel, une maison de retraite spirituelle qu'avait fait construire Jean-Paul II. Et du coup, ils sont là, etc. Et une fois qu'il a été élu, il dit, très Saint-Père, voilà, vous avez les appartements pontificaux, là où ont été les papes depuis que ça s'est construit, voilà. Hop. Et il dit, à l'intérieur de moi, j'ai entendu un grand non. Je n'irai pas. Et il a dit, je n'irai pas. Ce sera mon bureau. Alors, il reçoit les chefs d'État, il reçoit les gens, etc. Ensuite, il revient à la maison Sainte-Marthe. Et il est resté. On lui a aménagé, je pense, un lieu, bon, il n'est pas dans un cagibi, je suppose, même s'il aimerait bien, mais il est resté à la... Justement, parce qu'il... c'est un jésuite aussi, donc il a l'habitude de discerner. Le fait de poser ce nom a été très fort. Hein. Moi, ça m'a beaucoup marqué, ce nom. Parce qu'il dit, au fond, les appartements pontificaux, c'est un entonnoir, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut passer par 40 personnes qui ont chacun un petit pouvoir, etc., qui jouent des coudes pour gérer l'agenda du pape et qui le pape va rencontrer. Et non, je veux être accessible à tous. Et de fait, elle continue d'accueillir des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs qui viennent faire des temps spirituels et qui croisent le pape au repas dans le self. Donc, voilà, c'est... vous voyez, le fait de dire non, et elle a dit, c'est un non qui était très fort, hein, parce que du coup, tout le monde était un peu déstabilisé, parce qu'il faut aussi assurer sa sécurité. Bon, bref, mais toujours est-il que... parfois, dans nos vies, on a le désir de plaire, le désir de faire plaisir, nous rend pas service. Alors, je ne dis pas qu'il faut déplaire et être forcément foncièrement désagréable, mais ça ne nous rend pas service. Parce qu'on veut faire plaisir. Parce que, voilà, on veut, voilà. Et ça, je pense que, de ce côté-là, choisir, c'est renoncer. Alors, maintenant, poser un autre point qui peut être aussi intéressant. Quelle est la place pour une vie cachée? Qu'est-ce que ça veut dire, une vie cachée? Quelle est la place pour une vie plus, que j'appellerais, contemplative? Plus de recueillement, plus de... Est-ce que tous les soirs de la semaine... Je sors. Est-ce que tous les... Oui, est-ce qu'il y a un moment donné où j'habite chez moi? Est-ce que j'ai des temps morts dans mon agenda? Mais qui ne sont pas des temps morts au fond, qui sont aussi des temps de... Je suis tout simplement chez moi. Est-ce que j'arrive à gérer la solitude? Ou est-ce que c'est cette peur de cette solitude qui me fait aller dans un activisme et des agendas de plus en plus remplis? Alors, je vous propose un exercice pour terminer. On va prendre 5 minutes. Et que vous vous posiez la question, 5 minutes, c'est court, mais en silence. 5 minutes. Premièrement, qu'est-ce qui a été source de vie dans l'année qui est passée? Deuxièmement, en fonction de ce que je vous ai dit, donnez une priorité, que ce soit au niveau relation, au niveau de la profession, au niveau de la fécondité, une priorité accessible. Pas un truc complètement, oui, il faut que je change tout de ma vie de A à Z. Non, mais non, ça ne va pas être possible. Donc, Et troisièmement, à quoi je dois renoncer? Quel non j'ai à dire? Alors, je vous propose de prendre 5 minutes en silence. Vous pourrez retravailler peut-être ça chez vous, répondre à ces questions. Alors, je vous interromps dans votre méditation. Vous pourrez la continuer. Les 5 minutes sont déjà passées. Est-ce que vous avez quelques questions ou éclaircissements par rapport à ce que je vous ai dit concernant justement fixer ses priorités Alors, de suivre son intuition, oui. Oui, parce que bon, maintenant, il y a des intelligences qui sont plus intuitives, d'autres qui sont plus méthodiques, etc. Simplement, il faut vérifier son intuition, parce qu'on peut avoir une mauvaise intuition. Et on a tous eu cette expérience-là de quelqu'un sur qui on pouvait compter. On a eu l'impression qu'il était super, parce que... Bon, c'est vrai que moi, je suis assez rationnel, hein, de ce côté-là. Je suis assez... faire beaucoup fonctionner parce que nos sociétés sont très affectives, elles travaillent beaucoup sur l'affectif et l'affectif c'est surtout un lieu de manipulation et surtout et parfois de culpabilisation, c'est pratiquement synonyme et donc c'est bien aussi de savoir le cap. Alors ça peut être en tout cas de faire vérifier son intuition. Est-ce que ça vous paraît, j'ai l'intuition de la faire vérifier. Parce qu'arrive le moment peut-être difficile dans une relation, dans un travail, dans bon. Et puis on a une deuxième intuition, puis il y a des gens qui ont des intuitions tous les 5 minutes et qui sont parfois contradictoires. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, quoi. Mais oui, mais pourquoi pas suivre son intuition, oui. Mais de la faire vérifier, quoi. Je ne l'ai pas dit. Et relire après la décision qu'on a prise grâce à l'intuition. C'est là où on voit qu'on a une bonne intuition. Il y en a qui ont un bon jugement, qui ont un bon discernement. L'intuition, c'est aussi discernement. C'est moins, l'intuition, c'est plus... ça passe pas forcément par le rationnel, c'est plus de l'ordre du ressenti, c'est plus de... Bon, il y a des gens qui ont une bonne sensibilité de ce côté-là, ils perçoivent bien les choses. Mais c'est toujours bien de relire la décision que je l'ai prise grâce à l'intuition. Est-ce qu'au fond... Si chaque fois mon intuition me conduit dans le mur, ben c'est peut-être bien de changer un peu de manière de faire. Oui ?
La phrase de délibération, est-ce la phase où il faut se poser le pour et le contre ?
Oui, la phase de délibération, c'est la phase où on peut se poser le pour et le contre, oui. Oui, je pense que justement on a posé la question on a posé un vrai problème, donc dans une question fermée, de oui ou non, ben, on demande conseil, on a un éclairage, sachant que le conseil, ce n'est pas lui qui prend la décision, et la délibération, c'est là où on met le pour et le contre, c'est qu'on peut faire, certains font comme ça, méthodiquement oui, pour, contre, clac, clac, bon, pourquoi pas, ensuite si ça vous aide de mettre par écrit, pourquoi pas, mais c'est justement, c'est la phrase où on exprime les différentes alternatives face auxquelles je suis confronté et avec leurs points forts et puis de dire voilà, il me semble que paf, ça me semble l'emporter. C'est important d'avoir des raisons d'agir, donc c'est important d'avoir des raisons de croire. On ne croit pas en des raisons, mais on a des raisons de croire. La foi n'est pas irrationnelle. Bon, ça c'est encore un autre sujet.